La semaine dernière, quand j'avais demandé s'il y avait un sujet, quelqu'un avait dit dévotion. Et donc on a parlé de dévotion. Mais je pense que ça a été plus large que ça. Ça débordait sur d'autres choses. Et puis pendant le week-end d'après, j'étais dans un groupe de travail d'études. Et cette histoire de dévotion est revenue sur la table. Enfin, quelqu'un l'avait mentionné. Et il me paraissait encore plus... la façon dont c'est présenté souvent, si on donne un mot comme ça, ça me paraissait encore plus pendant le week-end de travail comme pas habité, pas solide, enfin vide dans le sens dévotion à quoi ? À quoi bon dévotion? On peut être les gars qui ont fait les attentats en septembre, ils étaient dévoués à leur cause, à ce qu'ils ont fait. Donc, dévotion, ça ne suffit pas de dire dévotion. Je reviens là-dessus parce que. Je crois que c'est parce qu'on est dans le même contexte que la semaine dernière, et je me souviens qu'on avait posé ça comme sujet, etc. Et combien on perd de vue de quoi il s'agit. Et à deux reprises récemment, j'ai reçu des messages d'une maison d'édition, un éditeur et un d'un agent qui disait non à mon proposition de livre. Et dans les deux cas, les mots étaient presque la même chose. Je crois que ces gens-là sont. Ils apprennent. Une formule, une façon de... C'était personnalisé comme message. C'était des emails personnalisés. J'avais un contact. J'avais une recommandation pour tous les deux. Donc, c'était pas un truc formel. Dans les deux cas, ça revenait à la notion que... le sujet de vente, de commerce, qui est la réalité dans le monde de l'édition, hein, c'est pas une nouvelle qu'on m'apprête. Mais ça me frappait combien c'était au cœur de ce qu'il disait. La deuxième personne, l'éditeur, m'avait dit « C'est un livre remarquable. C'est une proposition de livre remarquable. Je suis fascinée par la lecture que vous faites de... » Et il ajoute, mais je ne sais pas comment je pouvais le vendre. Et je crois que c'est vrai. Ce n'est pas qu'il me raconte les bobards. Mais ça m'a frappé combien... C'est un peu comme la dévotion, la vente. Le commerce, c'est mais à quoi bon ? Donc, s'il s'agit juste de vendre les livres, bah, on n'a pas besoin de bons livres pour ça. Hein. On n'a pas besoin de dire quelque chose pour ça. Il y a beaucoup de livres qui vont très bien, qui ne disent pas grand-chose. Et ça... Ça m'a frappé. Vous pouvez dire que c'est remarquable, c'est fascinant, mais c'est pas commercial. Moi, je préfère que mon livre soit remarquable et intéressant comme lecture que commercial, personnellement. C'est pour ça que j'écris un livre pareil. Mais je suis peut-être attachée à mon préférence aussi. Peut-être il faudrait que je fasse des compromis. Bon. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et combien de fois on fait ça dans nos vies? Dans nos vies de tous les jours, avec des concepts, avec des idées, avec des... dans une relation, dans le travail qu'on fait pour gagner notre vie, comme on dit. Ou quelque chose du genre... dans les notions monastiques bouddhistes, on dit qu'il ne s'agit pas de, comme dans le, pour les monastiques chrétiens, il ne s'agit pas d'avoir des vœux de pauvreté, de vivre comme les gens les plus pauvres de la terre. Dans la tradition bouddhiste, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit plutôt de simplicité. Plutôt que de pauvreté, il s'agit de simplicité. Et comment on pratique cette simplicité? Comment on introduit la simplicité dans notre vie? C'est une question pour tout le monde, moi comprise. C'est un peu comme quand on... on connaît ce genre d'expérience où on rentre dans une pièce ou chez quelqu'un et en anglais on dit it's busy. C'est une pièce où il y a plein de choses qui sont, c'est encombré avec des choses,
c'est chargé.
C'est pas forcément que c'est en désordre, c'est juste qu'il y a beaucoup de choses et on voit pas très clair. On ne voit pas vraiment ce qu'il y a. On ne voit pas bien la pièce. Ça, c'est une métaphore pour nos vies. Parce qu'on a notre vie qui est plein de choses. C'est une métaphore pour notre être. On se charge, on est occupé avec des choses, on est chargé des choses. Souvent, il y a des choses qu'on est persuadé qu'on ne peut pas vivre sans. Je ne veux pas me débarrasser de telle ou telle chose. C'est impossible. Ce n'est pas forcément vrai, mais j'ai cette idée. Il y a d'autres choses que je n'ai pas cette même attitude. Je n'arrive pas à m'en débarrasser, bien que j'aimerais m'en débarrasser. Et je suis confuse, je ne sais pas comment m'en défaire de ça. Moi, c'est... Il y avait une évolution, mais pendant des longues périodes, mon bureau, mon table de travail chez moi était catastrophe. Des ordres, des papiers, des trucs partout. Ou des journaux et des magazines. Que je... Maintenant, j'ai fait un effort et chaque week-end, je fais le tri. Parce que sinon, ça peut accumuler. Je lis 3 ou 4 journaux par jour, et puis les magazines, etc. Et donc ça crée. Et donc, je fais un effort, je dis, ok, là, je vais... Souvent, je dis, ben, j'ai pas de temps, je vais pas penser. J'ai gardé ce journal parce qu'il y avait quelque chose dans lequel j'ai voulu lire, et puis j'ai oublié ce que c'était. Et il y a tout un tas qui a accumulé avec. Et je ne me souviens plus ce que je voulais lire dans ce journal. Et ça, maintenant, je dis, ok, je vais retourner, je vais voir ce que c'est que je veux lire. Et je vais décider de nouveau, est-ce que je vais toujours regarder ou est-ce que je vais le lire maintenant pour m'en débarrasser, etc. Mais ça exige une certaine... renoncement à... je ne sais pas quoi exactement, à une idée de plaisir, une idée de tranquille, je veux pas m'occuper de ça. Quelque chose un peu vague qui est lié à un attachement à moi, qui est à une idée. Et je renonce. Et donc, pendant le week-end, je ne sais pas quand, je ne sais pas fixe, mais chaque week-end, je fais le tri. Car en fait, plus on simplifie, plus les choses sont fluides, plus et plus on apprécie ce qui est, disons. C'est comme cette histoire d'une pièce qui est chargée. On ne peut pas vraiment apprécier ce qui est là. Et dans ma vie, c'est pareil. Je crois que c'est Trungpa qui... Shogun Trungpa qui disait que il y a un terme en sanskrit, je ne sais pas ce que c'est, mais je ne me souviens plus, qui indique quelqu'un qui pratique vraiment le strict minimum de la vie. Manger, dormir et aller aux toilettes. Vraiment les nécessités de base. Et parfois, c'est considéré comme quelque chose de très péjoratif, ce nom, ce terme. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un nom en sanskrit. Et parfois, c'est considéré comme une pratique très avancée. Ça ne veut pas dire qu'on doit tous réduire notre vie à ces 3 choses-là. Par contre, est-ce qu'on peut regarder cette notion de simplicité et introduire cette notion dans notre vie et vivre notre vie vis-à-vis ça, d'optique de simplicité, c'est-à-dire de regarder, par exemple avec l'argent, regarder quels sont nos besoins et donc générer assez d'argent pour satisfaire nos besoins. On doit payer les factures, on doit payer le loyer, on doit les enfants, on doit acheter les habits. Mais est-ce qu'on a besoin d'acheter les habits de luxe? Quand moi je travaillais plein temps, j'étais obligée de gagner beaucoup d'argent parce qu'il fallait que je m'habille d'une certaine façon tous les jours, et il fallait que je paye un babysitter pour ma fille, beaucoup d'argent. Alors j'étais obligée de travailler beaucoup pour payer les habits que j'avais, dont j'en avais besoin pour travailler, et pour payer le babysitter qui devait être là parce que moi j'ai travaillé. Et puis, puisque j'avais plus d'argent, je payais un appartement qui n'était pas dans un quartier minable. Je dépensais l'argent que j'avais facilement. Et puis, quand j'ai commencé à travailler des mi-temps, je savais que j'allais avoir la moitié de ce que j'avais gagné auparavant. Mais ce que je ne gagnais pas en argent, j'ai gagné en temps, disons. Je pouvais faire d'autres choses. Je n'avais pas à payer un babysitter parce que j'étais là plus souvent. Et je n'avais pas besoin de m'habiller de la même façon autant, et donc je n'avais pas besoin de dépenser pour les mêmes habits, etc. Et j'avais quitté l'appartement très cher que j'avais pour aller vivre tout à fait dans un autre genre d'endroit. Et je simplifiais. Il ne s'agissait pas d'être pauvre, il ne s'agissait pas de ne pas avoir d'argent, de souffrir, de demander où est-ce que j'avais, est-ce que je pouvais manger, etc. J'ai travaillé une quantité qui était suffisante pour les besoins de ma vie. Alors ça, c'est un exemple très concret, mais il y a des tas d'exemples comme ça dans nos vies. Pas uniquement avec l'argent ou les choses matérielles, mais si on fait comme je dis, si on vide les choses, entre guillemets, de nos idées, si on vide la dévotion de ce que c'est quoi alors? C'est un peu comme avec des fractions, quand on est réduit, je veux dire.
Oui.
Et on arrive à le dénominateur le plus petit, comme on dit
le plus petit. Le quotient.
Le plus petit, c'est ça, le quotient le plus. En anglais, on dit lowest common denominator. C'est quoi en français, ça? C'est un terme mathématique.
Le dénominateur commun.
Le plus petit.
Non, c'est ça.
Un des plus petits.
Ouais.
Le PCM.
Quoi?
Quand on est à l'école. Le PCM.
Ah,
c'est quoi? Le PGDC.
C'est des astuces pour s'en souvenir.
Euh,
ou comme comme des économies d'énergie, de faire juste la quantité juste. C'est une satisfaction, je sais pas, quand on fait la cuisine et on fait la bonne quantité. Que c'est, on fait pas, c'est pas qu'il n'y a pas assez et il n'y a pas trop, c'est juste. Ou je sais pas, dans le sport, je ne suis pas vraiment un fan de rugby, mais j'ai assez regardé le rugby pour apprécier une certaine beauté dans ce jeu. Je sais que ça te paraît bizarre, mais les gens qui, comme toi, tu aimes bien le rugby. Dans le sud-ouest, il doit avoir un peu. Ça fait partie du culture, quoi.
Il y a beaucoup de gens qui.
Voilà. Enfin, il y a cette beauté dans le rugby, c'est que quand. J'aime beaucoup le fait qu'on doit passer derrière. Il ne faut pas passer en avant. Il faut passer derrière. Il faut le partager derrière. Et c'est vraiment un jeu de partage. Et quand il y a quelque chose de très élégant, quand, je sais que ça paraît bizarre de parler de ça, mais quand l'un après l'autre, les joueurs sont dans une ligne oblique et ils le passent l'un après l'autre, chacun derrière. Et c'est, quand c'est juste, c'est très beau. Non ? Tu es d'accord avec ça ?
Oui.
Bon, évidemment, à un moment, quelqu'un va tacler, descendu, il y a. C'est des brutes, force, etc. Mais ce moment, il y a quelque chose de. Quand c'est ça, c'est. C'est très élégant. Et c'est ça dont on parle. C'est d'une simplicité, d'une justesse. Ce n'est pas trop et ce n'est pas trop peu. Et parfois, je ne regarde pas souvent le rugby. L'autre jour, j'ai regardé 5 minutes parce que mon mari regardait les matchs de France jouait. Je regardais juste 5 minutes. Et pendant ces 5 minutes, il y avait à plusieurs reprises les gens qui faisaient ce qu'on appelle un en avant. Donc, la chose qu'il ne faut absolument pas faire, de laisser le ballon aller en avant. Et on est pénalisé pour ça. Il faut le mettre derrière. Et il me semblait que dans ces moments-là, c'est comme si la personne allait trop vite. Il pensait déjà à ce qu'il allait faire quand il avait le ballon. Bon, c'est inconscient et c'est peut-être pas vrai, mais ça semblait ça. Et donc, ça lui échappe. Il n'arrive pas à la capter parce qu'il est déjà en avant. Ou il est trop. C'est trop. Il pas assez. C'était pas juste. Et ça se répète dans nos vies tout le temps. Quand c'est trop, quand c'est pas assez. Et c'est pas une histoire d'être pénalisé. Comme dans le rugby, on est pénalisé. On le sent. On sent quand c'est. C'est comme dans le ryuki, c'est les bonnes quantités. On le sent. C'était. En France ou au Portugal, où il y avait une discussion sur le ryuki, on avait dit qu'on était censé ne pas faire de bruit. C'était là ? Non.
Tu l'as dit, mais est-ce que tu l'as dit juste en le citant ?
Non, c'était peut-être au Portugal. Et c'est pas parce qu'il ne faut pas faire de bruit. C'est pas. C'est juste que c'est comme dans le rugby, quand l'acte est juste, il n'y a pas de bruit. Et je pense que si on est préoccupé par les ventes, si on est éditeur et on est préoccupé par les ventes, on va être amené à vendre des choses qu'on ne veut pas forcément... que ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Mais, d'un autre côté, c'est ce qui nous intéresse, c'est les ventes. Le profit, l'argent, et donc, ok, comme ça c'est mon but, on me vend. Pas tous les éditeurs, je ne veux pas faire une généralité, mais grosso modo, dans notre société de marchands, c'est comme ça que ça marche. Donc on a le choix. Quel est notre... De quoi il s'agit, de nouveau. Et on ne sait pas forcément. L'autre jour, j'ai encouragé quelqu'un qui était dans le doute, dans la confusion, etc. Je l'ai encouragé simplement de rester immobile. Pas forcément ne rien faire, mais dans l'action, dans la vie de tous les jours, dans les choix, etc. Rester immobile. N'en rajoute pas. C'est ce qu'on fait là. On n'ajoute rien à ce qui est. On reste immobile. Et puis on voit, on regarde qu'est-ce qui vient. On simplifie. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Je veux bien passer une bonne.
Depuis le début, là, jusqu'à un moment, tu as parlé des terroristes du 11 septembre. Puis après, ça ne m'a pas quitté cette image. Je suis allé cette semaine à la Maison européenne de la photographie. Il y a une exposition juste invraisemblable de plusieurs artistes. Sur des thèmes très durs, la prostitution, les femmes dans les prisons, la guerre, notamment la guerre avec des photos juste absolument terribles, les aveugles, enfin. Quand tu dis qu'est-ce qui manque, ok, il y a de la dévotion, mais qu'est-ce qui manque ? Et là, c'était très clair à la fois dans le. Enfin, que ce qui manquait à chaque fois, enfin, ce qui n'y avait pas, ce que les acteurs de ces photos n'avaient pas, c'était le sens de l'unité, ce qu'ils étaient ancrés complètement dans les différences, et ce que le photographe avait, c'était une empathie incroyable pour ces sujets. Il y avait une femme qui passait pas juste comme ça d'un sujet à l'autre, mais qui passait des années comme ça avec ses sujets, qui suivait, une femme qui avait suivi le premier malade du sida, qui a passé des mois et des mois avec lui, avec les femmes dans les prisons, etc.
C'était le même photographe, toutes les...
Non, pas tout. Mm-hmm. Mais celle qui avait fait... les aveugles, c'était la même qui avait fait les femmes en prison. Et puis Puis après, il y avait sur la guerre, c'était différents photographes, avec des photos juste insoutenables. Enfin, vraiment, certaines photos insoutenables. Et puis, des photos presque mises côte à côte, où il y a... Enfin, il y en a une qui me reste, où c'est un cadavre, mais c'est juste le bas du corps, et il reste juste une partie du tronc. Et le corps est coupé en deux. Et puis, pas loin, dans une salle, il y avait une photographie à Rungis, donc vraiment juste à côté, une sorte de grand bac avec juste les têtes des veaux, avec les yeux qui sortent comme ça. Et on voit juste les os comme ça, avec les parfois complètement cassés, et les yeux qui sortent comme ça. Donc c'était très bouleversant comme expérience, mais aussi sur la place du photographe et l'empathie, au fond, c'est ça ce que ça me... Quand tu dis qu'est-ce qui manquait, l'empathie, quoi. Faire un avec son sujet,
oui, c'est
pas être dans la différence, et que toutes ces guerres, au fond, tout ça, j'avais l'impression que c'était toujours la même histoire. Toujours, les Tutsis, qui massacrent les uns, c'est toujours les musulmans, les serbes qui massacrent les musulmans, et c'est toujours la même histoire, toujours. Les Américains et les Viet Cong et les Viet... toujours la même histoire.
La séparation, la différence... Et comme tu dis, il n'y a pas d'expérience d'unité. Ouais. Et donc, si on est dévoué à la séparation,
oui.
Ça...
Oui, c'est pas la même expérience.
Non.
Mais quand on parle de la dévotion, on parle pas de la dévotion en général pour ceux qui croient en des religions ou donc forcément à une non-dualité. Donc cette dévotion serait pour, je sais pas, Dieu, la pratique, Bouddha, je ne sais pas.
Oui, je sais que sous-entendu, c'est entendu dévotion, c'est ça dont on parle, mais c'est dangereux. Enfin, je trouve qu'il y a un danger à clarifier de quoi il s'agit. Et qu'est-ce qui est vraiment l'intention essentielle dans ça? Qu'est-ce qui est... Parce que, je ne sais pas, les chrétiennes fondamentalistes aux États-Unis, ils sont dévoués à leur religion. Alors, Dieu, à l'exclusion de tous les autres gens. Donc, ça ne suffit pas juste de dire une dévotion dans un contexte religieux. Mais à quoi? De quoi il s'agit dévotion au profit, aux dépens des autres, quoi. À mon profit, à ce qui me profite à moi. C'est très matérialiste comme histoire.
Quand tu parlais de la simplification, moi, ce qui m'est venu, c'est la simplification de toutes les pensées qu'on peut se faire, de toutes les idées qu'on peut avoir, qu'on se fait dans telle ou telle situation, et essayer le plus possible de voir toutes ces idées, ce qu'on se fait. Et ça m'a fait penser à « Innombrables sont les illusions, je fais le vœu de les voir ».
Inépuisable.
Inépuisable. J'ai dit quoi ?
Innombrable.
Oui, au bas aussi. Parce qu'en fin de compte, en amont même des actes, plus je peux voir comment, combien je peux me faire d'idées, d'avoir des idées, des attentes, des peurs, etc. Et plus, en fin de compte, ça va influencer sur mes actes, mes réactions, mes... Le fait de dépenser, par exemple, beaucoup. S'acheter des choses, c'est... Si c'est trop, quelque part, ça, c'est... ça vient nourrir quelque chose, ça vient nourrir un manque. Ça...
Ou de... De même... De ne pas vouloir rester chez soi seul de temps en temps, et toujours être en contact avec des autres, sortir, ou toujours être au téléphone. Ou,
Moi, je sais pas, peut-être que c'est ma façon de fonctionner. Que, mais plus je peut réaliser ça, voir ça au niveau de la pensée, et c'est là où concrètement les choses peuvent peut-être bouger un tout petit peu, parce que je le vois, parce que je peux le réaliser au moins pour certaines petites choses.
C'est le... quoi?
C'est neuf?
Non, enfin.
Quoi?
Oui, c'est à quelle heure on s'arrête?
Je ne sais pas, en tout cas il est 9h.
Quelle heure est-il?
En tout cas il est 9h, je pense.
J'ai regardé.
Je pensais au. Quand tu. J'ai été très touchée par cette histoire de bureau encombré. Moi j'ai une maison très encombrée, un bureau très encombré. Depuis des années. C'est mon boulet.
C'est comme quoi?
C'est un boulet. C'est... Ah, je traîne ça comme le symbole de mon manque de structure. Quoi. J'ai toujours l'idée qu'il faudrait que ça soit soit éjecté, soit rangé, et qu'après tout irait beaucoup mieux. Quoi. Et puis je le fais pas. Ouais. Donc ma maison est encombrée. Et mon bureau, c'est encore pire. Et puis. Plus ça va, plus les piles de papier augmentent, plus je les mets dans des armoires. J'ai beaucoup de mal parce que j'ai un tout petit bureau, donc je les entasse, je les entasse, je les entasse. Avec une des petites thématiques. Rien à faire, j'arrive pas. Donc je suis très touchée par le fait que tu t'en parles parce que j'ai beaucoup de mal à parler de ça. En plus, à mon travail, je suis responsable qualité.
Responsable quoi ?
Qualité, de la qualité. Et dans la qualité, on est censé mettre les documents en bon ordre. C'est quelque chose qui est très important, la qualité.
Et tu le fais dans le travail ?
Oui, je demande aux autres de le faire.
Il faut les faire dans la maison.
Et je me dis, ils le font, et je me dis, mais quand ils vont à mon bureau, ils doivent quand même se dire qu'il y a quelque chose qui déconne complètement. Mais bon, j'y arrive bien dans mes missions de responsable qualité. Je suis assez souvent encouragée parce que ça se passe bien. Non, c'est quelque chose que, vraiment, voilà. C'est une... J'en parle parce que c'est une vraie tare pour moi. C'est quelque chose que je. Voilà, c'est. J'ai l'impression d'être un peu moins. Encombré dans ma tête que dans mon bureau. Voilà. Mais après, je me dis peut-être que je me fais des illusions.
Est-ce que tu arrives à travailler sur ton bureau?
Ah oui, oui. Ouais. J'empile. Je suis très entourée. Des fois, quand il y en a trop et quand des gens veulent travailler avec moi, je mets par terre. Donc, je suis très sensible et après, voilà, je t'ai aussi écouté, Brigitte, parce que je trouve aussi que dans les sociétés, au niveau de la consommation, aussi, c'est souvent parce qu'il y a un manque et qu'on consomme. Et en même temps, moi, l'idée de l'ascétisme, c'est pas du tout, je ne trouve pas ça très. Et juste non plus, de vivre sans rien. Enfin, cette idée du juste milieu, là, à mon avis, s'applique encore aussi dans tout ça.
Oui, souvent, on a cette crainte que on est dans le trop, mais si on va basculer dans le pas assez. Et donc, on reste dans le trop. Et ça, c'est juste le pas assez, c'est juste le pile et face de trop et pas assez. Et même dans l'histoire de du bureau encombré, entasser les choses, etc., il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, c'est que. Je parle d'expérience. Qu'est-ce qui fait que je ne veux pas m'occuper de ça? Pourquoi je ne veux pas m'occuper de ce papier? Pourquoi je ne veux pas ranger ce papier? Pourquoi je ne veux pas jeter ce papier? De quoi il s'agit vraiment de ce papier? C'est chargé. Peut-être, on peut dire, ça n'a aucune importance, c'est juste des papiers, je les balance. Ou je suis très attachée à ces papiers, c'est très important, c'est essentiel, c'est tellement important que je ne peux pas le toucher, je ne peux pas m'en occuper. C'est tellement précieux. Les deux, c'est pas juste. Il y a des gens qui perdent tout le temps les papiers, qui jettent des papiers importants sans faire attention. Mais moi, j'estime que moi, avec mon état de papier, c'était pas mieux. C'était juste une autre façon d'être attaché. Les deux, c'est attaché aux choses. Ou à une idée, ou à un ordre. Et dans mon expérience aussi, il y a quelque chose de chaque instant qui est en jeu. C'est-à-dire que si d'un instant, j'ouvre le lettre, je regarde ce que c'est, et je m'en occupe tout de suite, si c'est quelque chose qu'il faut m'en occuper tout de suite, ou si vraiment je n'ai pas de temps, je mets dans l'endroit où je vais m'occuper la prochaine fois que j'ai l'occasion. Mais souvent, quand j'entasse, c'est pas ça. C'est, je ne suis pas vraiment dans l'instant, et donc je ne veux pas m'en occuper, je suis en train de penser à autre chose. Et donc, ça va compter. Ou le journal. Je ne le lis pas vraiment. Je lis, et puis je commence l'article, je dis, ah oui, moi je veux passer à autre chose. Puis je me dis, ah ben je veux revenir lire cet article, mais pas maintenant. Et puis je vais me mettre à côté, et puis... Je fais la même chose le lendemain. C'est une façon, ça reflète le fait de ne pas être vraiment dans l'instant et juste être avec ce qui est maintenant. Et si c'est le cas, si je suis vraiment dans l'instant, je n'ai pas de problème à mettre le papier à côté parce que à un autre moment, quand c'est le bon moment, je vais m'en occuper. Je vois plus clairement quand c'est le bon moment et quand ce n'est pas le bon moment. Et quelle action est juste et quelle action n'est pas juste. C'est un peu comme le joueur de rugby qui est déjà en train de penser à l'essai qui va marquer quand il reçoit le passe. Et donc, ça ne m'échappe pas.
Moi, je voudrais dire juste que quand le sujet de la dévotion a été évoqué la semaine dernière, je me dis, oh non, pas ça. Et donc, j'étais très, très contente de la matière, la manière dont tu l'avais abordée la semaine dernière, parce que tu avais tout de suite parlé de la façon où le dévouement, où la dévotion, peut être utilisé à des fins qui excluent les autres et qui justifient un certain comportement. Et moi, je l'ai toujours ressenti comme ça. Et pour moi, la dévotion va avec le mot aveugle. Il y a blinkers, hein, il y a souvent, quand il y a dévotion, c'est à l'exclusion d'autres choses. Donc ça m'a beaucoup intéressé que tu l'avais abordé de la même façon. Savoir que c'était un mot ou un concept pas forcément bénéfique.
Oui, qu'il faut faire attention. Il y a aussi en même temps, et je pense que j'ai dit ça aussi la semaine dernière mais je ne me souviens plus, j'ai lu récemment le livre d'une psychanalyste qui disait à un moment elle disait que dans les années 70 ou même les années 80, je ne sais pas, elle n'a jamais été allée écouter les séminaires de Roland Barthes. Et elle regrettait qu'elle n'avait jamais fait ça. Et puis elle a dit, elle a ajouté, mais... Et elle était en analyse avec Jacques Lacan, et elle était vraiment disciple de Lacan. Et elle dit, mais quand on a la chance de rencontrer un maître, on n'a pas, pendant un certain temps, on n'a pas de place pour en écouter d'autres. Et c'est vrai, ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre maître. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chemin, qu'il n'y a d'autre culture, il y a d'autres possibilités, etc. Mais pour nous, à cet instant-là, c'est le tout. Et ça n'exclut pas, disons. C'est ça le truc. C'est que, comme tu dis souvent, on a cette expérience des gens qui sont dévoués à, comme tu dis, aveugles, et ils excluent tout le reste. Pour les autres aussi. Tandis qu'il ne s'agit pas de ça. Non, cette femme, elle parle de Lacan, c'était ça. Et elle regrette un peu qu'elle n'ait pas écouté Barthes, mais elle n'avait pas la place pour ça. Elle reconnaissait totalement que Barthes était valable, intéressant. Elle reconnaissait qu'il y avait plein d'autres choses, mais pour elle, elle était entièrement dévouée à ça, à ce qu'elle faisait. c'est une façon de simplifier.